Hélène Philippe pour l'info. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Emmanuel Macron veut voir du bleu partout. Le Beauvau de la sécurité clôturé avec son lot d'annonces. La présence des forces de l'ordre doublée en 10 ans, les procédures simplifiées, les plaintes en ligne dès 2023. Vaste chantier, mais qui ne sera voté qu'après la présidentielle. Le chef de l'État se projette. Huchot, Aigues-Vives, Vergès, quelques-unes des communes encore sous l'eau dans le Gard ce soir après les violents orages de la mi-journée. Deux personnes recherchées ont été retrouvées saines et sauves. 12 départements en vigilance orange encore. Dans ce journal, quelques centaines de personnes ont manifesté un peu partout en France contre l'obligation vaccinale appliquée dès demain pour les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite. La réouverture de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan, sujet de négociations complexes des derniers jours. Et le meilleur maire du monde est à Grigny, défenseur des quartiers populaires. Nous sommes allés demander aux habitants ce qu'ils pensent de leur maire. Et au téléphone sonne Fabienne.
Bien, ce soir, ce sont les ministres qui nous intéressent et vous donnerez votre avis, vous poserez vos questions sur la manière dont il faut les juger et pour quelles raisons. Vous avez suivi la mise en examen d'Agnès Buzyn. Comme nous, elle n'est pas la seule dans le viseur de la Cour de justice de la République. Mais est-ce que c'est cette Cour qui est le bon tuyau, en gros, pour que les ministres rendent des comptes? Est-ce que la démocratie est en pleine marche ou est-ce que le risque est de paralyser l'action des politiques? La discussion se passe comme tous les soirs au 01 45 24 7000.
France Inter.
Des mois de concertation, de multiples tables rondes et à 7 mois d'élection présidentielle, la sécurité est donc mise à la une de l'actualité. Emmanuel Macron a fait le bilan aujourd'hui du Beauvau de la sécurité depuis l'école de police de Roubaix avec plusieurs annonces que l'on va décrypter avec vous. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
C'était loin l'un des points les plus attendus, les plus réclamés, la promesse de simplifier les procédures. Le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures qui peuvent changer radicalement la manière de travailler des forces de l'ordre.
Une simplification drastique. Le chef de l'État évoque comme piste pour les enquêteurs de ne plus envoyer par mail que des procès-verbaux de synthèse aux magistrats. Quand il y a en pièce jointe un enregistrement vidéo, pas besoin de tout scripter, en tout cas pour les affaires les moins sensibles, pas besoin encore de tout imprimer malgré tout en 2 exemplaires papier comme c'est le cas encore aujourd'hui. Encore faut-il que les logiciels de rédaction des plaintes, les interconnexions entre fichiers, les interconnexions entre système police-magistrat soient efficaces, ce qui est loin d'être le cas. Il y a tout à faire ou à refaire, ça a été largement dit lors du Beauvau de la sécurité. Emmanuel Macron a annoncé aussi, ce n'est pas anodin, la création d'un nouveau corps de greffiers de police ou gendarmerie pour assister justement les officiers de police judiciaire qui croulent sous les procédures. Enfin, la généralisation au niveau départemental d'une seule tête opérationnelle dans la police comme chef de la sécurité publique, de la police judiciaire et de la police aux frontières quand il y en a une, le but étant sur le papier d'éviter des doublons avec plus d'efficacité. Visiblement, les expérimentations menées ont été jugée très concluante dans les départements d'outre-mer ou encore à Calais.
Simplifier les procédures pour simplifier les enquêtes, un aspect important de ces annonces. Emmanuel, vous restez avec nous. Le deuxième, c'est la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Le chef de l'État veut la doubler en 10 ans.
La première exigence et ambition, je l'ai parfois d'ailleurs dit en ces termes, je vous le répète, plus de bleu sur le terrain. En sachant là aussi bousculer quelques tabous, quelques habitudes prises.
Plus d'effectifs d'ici la fin du quinquennat. D'ailleurs, confirmation de la création de 10 000 postes. Ça ne peut que ravir les syndicats de police comme Alliance qui l'a exprimé. Mais c'est aussi des horaires revus, hein, plus de présence sur le terrain. D'accord, mais il faut des contreparties. Emmanuel Macron avait promis du donnant-donnant, Emmanuel Leclerc. Mais qu'en est-il donc de ce donnant-donnant? Qu'en est-il par exemple du contrôle de l'action des forces de l'ordre?
Eh bien, ça sera une focale élargie à l'ensemble des actions des forces de l'ordre. Une fonction d'audit proposée aux parlementaires, comme ça existe pour le renseignement. Alors, est-ce qu'une délégation de députés pourra assister par exemple à une opération de maintien de l'ordre dans les salles de commandement avec le préfet de police de Paris? Est-ce qu'ils pourront assister quand les affaires le nécessiteront à des conseils de discipline en interne? Ça sera à discuter. C'est ouvert, précisons ce soir, place Beauvau, dans l'entourage de Gérald Darmanin.
Et sur la question du maintien de l'ordre, sujet ô combien épineux depuis les manifestations contre la loi travail en 2016 et des gilets jaunes 2 ans plus tard, Emmanuel Macron donne rendez-vous en novembre pour un nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Le Conseil d'État avait annulé plusieurs dispositions du dernier, dont l'utilisation de la technique de la NAS. Pardonnez-moi, j'allais donner la parole à Maxence Lambrec sur cette... sur ce Beauvau de la sécurité. Beauvau de la sécurité donc avec des annonces en pagaille, mais pas pour tout de suite. Parce que toutes ces mesures, hormis la grosse rallonge de 500 millions d'euros votée cet hiver, vont passer par une loi de programmation présentée au début de l'année prochaine, mais votée non pas avant, mais après la prochaine présidentielle. Encore une fois, Maxence Lambrecq, c'est vous qui avez suivi le discours d'Emmanuel Macron à Roubaix. Le chef de l'État enjambe l'échéance et se projette dans le temps long.
En effet, son calendrier court jusqu'en 2030, que ce soit pour les filières industrielles ou donc pour la police et la gendarmerie. Il voit loin pour essayer d'incarner toujours, malgré le quinquennat passé, la modernité et l'avenir. Car son bilan est nécessaire mais pas suffisant, admet un ministre. Et en matière sécuritaire, son bilan est sans cesse attaqué. Il se doit donc de se projeter, de proposer un cap. Cette loi de programmation sera dévoilée en janvier, à peine un mois avant la fermeture du Parlement et à 3 mois de la présidentielle. Un tract électoral s'énerve déjà à la droite. Non, un projet consensuel, répond l'Élysée, qui devrait enjamber le scrutin, quel qu'en soit le résultat, et entrer en vigueur début 2023. L'angle d'attaque est tout trouvé pour ses adversaires. Pourquoi se réveille-t-il maintenant? Le Beauvau de la sécurité a été lancé l'hiver dernier, alors que le ministère de l'Intérieur venait de publier son livre blanc avec déjà plus de 200 propositions. Ce discours conclusif devait lui intervenir au mois de mai, le voici mi-septembre, mais l'essentiel c'est le budget 2022 sera sur un conseiller 1,4 milliard en plus, tout le monde va le voir, véhicules, locaux, uniformes, caméras, c'est sur des changements concrets qu'Emmanuel Macron aura besoin de s'appuyer.
Maxence Lambrecq en direct de Roubaix avec Raymond Albouy. Emmanuel Macron qui a quitté Roubaix pour Nice ce soir, déplacement au 16e assise de l'économie de la mer.
À 19h presque 7, Hélène, dans le Gard, l'équivalent de 2 mois de pluie est tombé en 3 heures.
Situation dantesque à la mi-journée, des grêlons gros comme des balles de ping-pong et plus de 19 000 éclairs repérés par la cellule orageuse du Gard. Ça va un peu mieux ce soir, mais les trains ne roulent pas depuis Nîmes vers Montpellier et Avignon. 2 personnes recherchées cet après-midi ont été retrouvées saines et sauves et plusieurs communes sont toujours sous l'eau à l'ouest de Nîmes comme à Bernie, où vous vous trouvez, Romane Porcon?
Oui, tous sont munis de balais et de brosses pour évacuer l'eau qui est entrée dans la maison. Nicole, la grand-mère, les larmes aux yeux, vient constater les dégâts dans la maison de ses enfants.
Ça fait la 3e fois en 2002, en 2005, mais moins important. Et là, je vois que les enfants, ça me fait de la peine. Voilà.
Vous avez les larmes aux yeux, forcément, c'est difficile.
Mais oui, parce que c'est une masse de famille, donc les enfants, les petits-enfants... Et puis de voir ça fait mal. Voilà, tout le monde va bien, bébé de 1 an va bien. Lui, bébé, il aimerait mettre des bottes et patauger.
Les habitants qui sont d'ailleurs tous munis de bottes ici pour évacuer l'eau des maisons, Ghislain est venu prêter main forte à ses voisins.
Tenez, une raclette, je vais prendre le micro. Voilà. Hein, voilà.
Vous avez besoin d'aide, j'imagine?
Non, là ça va, on arrive à s'entraider tous entre le village. Donc ça devrait le faire. Mais moi, j'ai pas morflé. Donc du coup, je suis venu aider. L'entraide. Il n'y a que ça maintenant. On va pas pleurer, c'est pas le moment.
Bernice est d'ailleurs la commune la plus touchée du Gard. 300 millilitres d'eau sont tombés.
La 9 est toujours coupée entre Nîmes et Galargues dans les deux sens. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu au sud-ouest de Nîmes. Et 12 départements restent en vigilance orange ce soir, de la Haute-Garonne à la Creuse. Une image que l'on aura vue dans plusieurs villes de France aujourd'hui. Des manifestations à Paris, Toulouse, Rennes, Grenoble, quelques centaines de personnes à chaque fois contre l'obligation vaccinale qui s'appliquera demain au personnel des hôpitaux et des maisons de retraite. À Lyon, Mathilde Imberti a rencontré Cédric, infirmier psy.
Moi, je suis stigmatisé juste parce que je demande le droit de réflexion. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans 3 jours quand il y a des services qui ne vont pas tourner légalement parce qu'il n'y aura pas assez de soignants. Déjà, on est en plan blanc sur notre hôpital. Cette année, il y a encore 2 services qui ont fermé. Pour des bonnes raisons, il n'y a pas de médecins. OK, et trouvons des bonnes solutions. Embauchons plus de médecins, montons les salaires, donnons envie aux gens de garder leur vocation, leur engagement, plutôt que de les rendre coupables. C'est des gens qui, pendant 2 ans, ont été dans les vagues avec des sacs plastiques, avec des doubles masques chirurgicaux pour un FFP2. Avec des conditions folles. On l'a fait, on a protégé nos patients. Sur mon hôpital, il n'y a pas eu de surmortalité. On a géré le Covid. On est en train de vraiment taper dans les forces vives parce qu'il y a des gens qui veulent juste prendre du temps.
À partir de demain, donc, les salariés des hôpitaux et des EHPAD pourront être suspendus sans rémunération s'ils n'ont pas fait leur première dose. S'ils l'ont faite, en revanche, ils auront jusqu'au 15 octobre pour compléter leur schéma vaccinal. Les syndicats des maisons de retraite privées ont fait le point aujourd'hui et ne recensent qu'entre 1 et 2 % de salariés calendrier récalcitrant. La vaccination qui marque le pas depuis plusieurs semaines. On n'a pas encore atteint la barre des 50 millions de Français vaccinés, au point d'envisager la fermeture des grands centres de vaccination mis en place en début d'année. D'ici 1 à 6 mois, selon un document du ministère de la Santé consulté par l'AFP, en fonction de la capacité des pharmaciens et des médecins libéraux à prendre le relais. Et puis on se rappelle de cette interpellation musclée d'une infirmière qui manifestait à Paris en juin 2020 en pleine négociation du Ségur de la Santé. Elle avait jeté des morceaux de bitume sur les forces de l'ordre. Farida, c'est son nom, a été condamnée à 1000 euros d'amende avec sursis. 2 mois de prison avaient été requis, décision inespérée donc, a commenté son avocat.
Près d'un mois après la reprise en main de l'Afghanistan par les talibans, la réouverture de l'aéroport de Kaboul est un enjeu crucial.
C'est un test pour le régime. Le Qatar, médiateur clé, réclame un accord clair pour faire fonctionner l'aéroport. Quant au Pakistan, qui a fait atterrir un premier vol commercial à Kaboul hier, il n'est pas sûr du tout de pouvoir continuer. Éric Biegala est à Islamabad avec Jérémy Thuile.
Techniquement, l'aéroport de Kaboul fonctionne à peu près. Les Qataris et les Turcs qui devraient exploiter cet aéroport préviennent qu'ils ne pourront y parvenir sans que la tâche des uns et des autres soit bien définie. Qui s'occupera de la sécurité, qui prendra en charge les aspects techniques et à quelles conditions? Quant aux premiers vols commerciaux opérés sur Kaboul par la compagnie pakistanaise PIA, cette dernière a dû revoir ses ambitions à la baisse, explique Abdullah Khan, directeur général en charge de la communication de l'entreprise.
Du fait des assurances particulièrement chères, faire voler des avions régulièrement n'est simplement pas faisable. Le coût de l'assurance pour chaque vol, c'est plus d'un demi-million de dollars. Les primes d'assurance sont très élevées parce que les compagnies d'assurance considèrent encore l'Afghanistan comme une zone de guerre. Et à cause de ces assurances, le prix du billet par passager est bien trop élevé. Aujourd'hui, on ne considère donc que les demandes des agences internationales qui veulent faire sortir leur personnel et qui peuvent mettre les moyens.
Le premier vol PIA ce lundi était affrété et donc payé par les principales agences de l'ONU, avec comme passagers essentiellement des employés de ces agences.
On espère que ces tarifs pourront baisser si d'autres compagnies commencent à opérer sur Kaboul et que les choses se normalisent.
À terme, PIA espère opérer 4 à 5 vols par semaine sur Kaboul et à des tarifs raisonnables.
L'étranger nous emmène aussi en Chine ce soir, où l'on regarde avec attention et inquiétude les comptes du numéro 2 de l'immobilier, le géant Evergrande, et sa dette abyssale, 260 milliards d'euros, tout proche d'une faillite qui aurait des effets désastreux sur l'économie chinoise, mais aussi par ricochet sur celle du monde entier. On en parle déjà comme du Lehman Brothers chinois. Lehman Brothers qui avait quand même déclenché la crise financière mondiale de 2008. Tout cela n'a rien de rassurant. En Chine, en tout cas, la panique s'empare des clients qui ont manifesté aujourd'hui devant le siège du groupe à Shenzhen. Correspondance à Pékin de Stéphane Pambrin.
La colère de dizaines de manifestants devant le siège du groupe Evergrande à Shenzhen. « Rendez-nous notre argent » hurle-t-il. Ils demandent le remboursement des sommes avancées pour le paiement de leur appartement, car tous les chantiers de ce groupe immobilier, l'un des plus puissants d'Asie, sont à l'arrêt, soit 1 400 000 logements au total, pour une valeur estimée à 170 milliards d'euros. Ces clients ont bien payé, mais ils n'auront certainement jamais les clés, ce qui explique ce déchaînement de colère et l'intervention de la police. Des manifestations qui risquent de faire boule de neige en Chine, alors qu'Evergrande accuse une dette abyssale de 260 milliards d'euros. C'est l'équivalent de la dette publique du Portugal. Après avoir joué la montre, il avoue désormais ne pas pouvoir rembourser, provoquant la panique chez ses clients et sur les marchés financiers, où le titre a déjà perdu 85% de sa valeur depuis le début de l'année. L'immobilier, longtemps moteur de l'économie chinoise, menace aujourd'hui de la faire dérailler, car Evergrande n'est pas seul en difficulté. Les dettes cumulées des 4 plus grands promoteurs du pays atteignent la somme faramineuse de 851 milliards d'euros. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
L'économie en France et ses chiffres de l'emploi. Le bâtiment, premier employeur privé, devrait en créer 60 000 cette année, malgré une activité en recul à cause de la pénurie de matériaux. Quant à l'intérim, même s'il a perdu 37 000 emplois en équivalent temps plein en 2 ans, la dynamique est bonne. Depuis janvier, le marché a recréé 150 000 postes à temps plein.
Au procès des attentats du 13 novembre 2015, la Cour entend aujourd'hui la juge d'instruction belge Isabelle Panou.
L'enquête, côté belge, 5 ans d'instruction et forcément un témoignage en longueur, au point d'ailleurs qu'une chaise lui a été accordée. Sophie Parmentier, vous êtes sur place. La juge a transporté aujourd'hui la salle dans les méandres de la cellule terroriste franco-belge. Oui, la juge Isabelle Panou qui s'avance à la barre dans une longue robe noire, talons, joues très rondes et très roses. Elle pose devant elle un énorme classeur, s'assied sur la chaise qu'elle a en effet spécifiquement demandée et elle se met à raconter pendant 4 heures avec un accent belge cette enquête antiterroriste dont elle a été saisie dès le 14 novembre 2015 à 10h. Le point de départ, c'est ce GSM dans cette poubelle, explique-t-elle. Ce téléphone que les terroristes du Bataclan ont jeté 5 minutes avant le début du massacre dans la salle de spectacle. Ce téléphone sur lequel les enquêteurs français ont trouvé ce SMS. On est parti, on commence. Le message était destiné à un numéro belge. C'est bien gentil, un numéro belge, mais les enquêteurs français étaient bloqués. Il a fallu tout de suite notre collaboration, note-t-elle. Et puis, il y avait cette Polo garée devant le Bataclan, louée en Belgique par Salah Abdeslam. Alors, la juge a ordonné des écoutes en Belgique et elle a découvert des caches où a été fabriqué le TATP pour les ceintures explosives. C'est elle qui, ces 5 dernières années, a placé en détention 12 des 14 accusés présents à ce procès des attentats du 13 novembre 2015, des accusés dont beaucoup viennent de Molenbeek à Bruxelles, des accusés qui l'écoutent en silence dans leur grand box de verre.
Sophie Parmentier avec Geoffrey Marial en direct du Palais de Justice sur l'île de la Cité à Paris. Retrouvez le compte-rendu d'audience de cette journée, évidemment sur franceinter.fr. Plus fort que Washington ou Buenos Aires, Grigny dans l'Essonne. Son maire est le meilleur du monde, selon la fondation anglaise, la City Mayors Foundation de Londres. Lui qui avait lancé en 2017 l'appel de Grigny avec d'autres maires de villes populaires. Plus d'un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté dans la commune. Rémi Brancato, bonsoir.
Bonsoir.
Vous y êtes allé sur place à Grigny aujourd'hui, là où Philippe Rio se bat sans relâche pour réclamer des moyens. Il espère que ce titre l'aidera à faire plus.
Oui, et son dernier combat en date, c'est le petit déjeuner servi à l'école maternelle, comme ici école La Petite Sirène. Les parents saluent une belle initiative, comme Nadia, sa fille, à 3 ans.
Personnellement, moi, je travaille, donc elle prend ses petits déjeuners à la maison, elle a tout ce qu'il lui faut. C'est une très bonne idée pour certaines familles ici, ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. Grigny, si j'ai possibilité de partir, je partirai. Et même pour les écoles, ma fille, je la laisse à la maternelle, et quand elle sera un peu plus grande, je la mettrai ailleurs.
Car ici, dans ce quartier de Grigny 2, les habitants cumulent les problèmes sociaux, avec beaucoup de primo-arrivants, de travailleurs pauvres. Pour Fatoumata, 3 enfants, l'urgence, c'est le logement.
5 personnes, on habite le studio.
Vous avez un studio pour 5?
Oui, c'est le studio, 5 enfants.
Et vous avez fait une demande pour un logement plus grand?
On a fait demande, ça ne va pas.
Son quartier, Grigny 2, c'est une immense copropriété privée de 5000 logements dégradés, insalubres. Alors le maire s'est battu pour obtenir une rénovation financée par l'État. Et Philippe Rio, qui vit justement dans ce quartier, reconnaît que ce titre de meilleur maire du monde ne résout rien.
La pauvreté ne s'est pas arrêtée du jour au lendemain avec cette récompense. Cette récompense, ça peut nous aider à accélérer. Parce qu'effectivement, structurellement, il y a moins de moyens en éducation nationale, en police et en justice. La copropriété dégradée, il y a encore énormément de travail. 5-10 ans de travail.
Alors pour lui, cette récompense est, dit-il, un bouquet de fleurs, un bonbon, une reconnaissance pour continuer son combat alors que la pauvreté s'est aggravée dans sa ville depuis le début de la crise sanitaire.
Merci Rémi. Brancato, un petit match ce soir. Le premier d'une longue série, c'est le retour de la Ligue des champions de foot. Lille reçoit les Allemands de Wolfsburg. Et en cyclisme, le Paris-Roubaix s'ouvre aux femmes. Ce sera le 2 octobre, la veille de la course des hommes entre Denain et Roubaix. Ce n'est pas un vélo, c'est une moto qui trône au-dessus d'un manche de guitare. L'installation hommage à Johnny Hallyday a donc été inaugurée ce matin sur l'esplanade Johnny Hallyday, devant la salle de concert de Bercy où le chanteur a donné plus de 100 concerts et où ce soir, une pléiade d'artistes joueront ses grands tubes. Grande journée. On est dommage. Donc, près de 4 ans après sa disparition, la chanteuse Louane n'aurait manqué ça pour rien au monde.
Johnny, il a bercé mon enfance. Je suis littéralement née dans une famille, particulièrement avec mon père qui écoutait énormément de Johnny. Et c'est vrai que c'est une figure emblématique, vraiment très ancrée. J'ai très, très envie de lui rendre hommage. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois et l'honneur de pouvoir chanter avec lui une fois. Et c'est vrai que ça reste une des plus grosses claques que j'ai prises musicalement. Et à la fois, je suis assez stressée parce que c'est Bercy et Bercy, c'est immense. De toute façon, il y a des salles comme ça qui sont emblématiques de Johnny, comme évidemment Bercy, comme le Stade de France et le Parc des Princes, qui sont des endroits qui lui appartiennent presque un peu en fait. J'ai un peu peur, soyons honnêtes, mais j'avais envie de chanter une chanson de Johnny que j'avais jamais chantée et j'en ai chanté beaucoup. On m'a proposé Diego et j'ai dit génial, trop bien.
Louane, avec Mathieu Culeron qui chantera ce soir aux côtés de Florent Pagny, Patrick Bruel, Louis Bertignac. Il y a un autre concert exceptionnel qu'on vous propose ce soir à la Maison de la Radio et de la Musique. Concert de The Limignanas avec la participation de Laurent Garnier. C'est tout à l'heure à partir de 21h et c'est présenté sur France Inter par Rebecca Manzoni.
Et ben voilà, donc on sait ce qu'on fait de notre soirée. Merci beaucoup Hélène Filly, à demain. On reste ensemble bien sûr, nous c'est le téléphone sonne dans le 18-20 et c'est la Cour de justice de la République qui nous intéresse, celle qui juge les ministres. Un mot du temps, juste avant.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Élodie Callac, attention aux orages à nouveau, hein, ce soir et aussi cette nuit.
Oui, du sud-ouest jusqu'au nord-est en particulier, des orages. Alors ils peuvent être forts sur l'Occitanie, le Limousin, le Massif central avec des pluies intenses, de la grêle et des rafales de vent. On a 12 départements actuellement en vigilance orange. Attention aussi aux inondations, aux débordements de cours d'eau. Et puis l'activité, elle faiblira quand même temporairement demain matin sur le sud-ouest, Fabienne.
Et demain, ce sera encore plus instable, c'est ça ?
Alors ce sera encore instable. Hein, sur les régions du sud, de l'est, avec des averses, des orages parfois forts. Alors surtout sur le Languedoc et la basse vallée du Rhône à nouveau, avec des quantités de pluie qui pourront être importantes en très peu de temps. Donc encore une grande vigilance à prévoir. De la Vendée vers la région parisienne et les Ardennes, on aura pas mal de nuages avec quelques averses. Sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, des éclaircies qui s'élargiront l'après-midi. Des éclaircies aussi pour la Corse et puis pour les températures. 18 degrés à Cherbourg, 21 à Lille, à Nancy, 23 degrés à Paris et à Tours. 27 à Lyon, à Agen également, 31 à Marseille et 32 à Ajaccio.
Merci beaucoup Élodie Callac de Météo France.